France Info.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Est-ce que la CGT va donner elle aussi pour la reconstruction de Notre-Dame ?
C'est pas prévu. Vous savez que la CGT contribue plus sur des actions sociales. Nous avons une association qui s'appelle l'Avenir Social qui vient en aide à des enfants défavorisés pour les aider à partir en vacances. Nous avons construit une école dans un village au Sénégal et donc c'est plus destiné nos actions à sur des sujets sociaux. Mais je pense que des militants de la CGT le feront.
Et Emmanuel Macron va lancer une souscription nationale. Vous allez y participer, vous, à titre personnel ?
Je sais pas. Moi aussi, je donne des sous, mais plus sur des questions sociales, humanitaires.
Vous avez été surpris par la mobilisation, par l'émotion populaire et cette grande unanimité dans le pays ?
Non, parce que c'est Notre-Dame, c'est un symbole pour beaucoup de gens. Pour les catholiques, c'est un lieu de culte, mais pour les citoyens en France et dans le monde, c'est un magnifique monument, symbole de Paris et de la France. C'est aussi un magnifique, c'est une œuvre culturelle qui a donné aussi, qui est connue par le roman de Victor Hugo. Et puis pour nous, les syndicalistes, c'est aussi l'image du travail. Vous vous rendez compte le nombre de travailleurs qui ont permis de construire cette magnifique cathédrale, des divers corps de métiers. Et puis, on oublie de le dire souvent, des travailleurs qui venaient de différents pays d'Europe. Dans l'actualité, ça montre bien que, eh bien, quand on a des travailleurs, quelles que soient leurs origines, on arrive à construire des choses magnifiques. Je pense que ça devrait être plus souligné par le président de la République en ces temps de populisme, comme vous dites pudiquement.
On en est à près de 900 millions d'euros de dons depuis lundi. Philippe Martinez et Emmanuel Macron a abordé cette question hier soir lors de son intervention.
Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle.
On a vu plusieurs milliardaires signer de très gros chèques, 100 ou 200 millions d'euros, Philippe Martinez. Est-ce que finalement, l'argent ruisselle du haut vers le bas ?
Ah, il ruisselle pas pour tout.
Il ruisselle pour Notre-Dame.
Pour Notre-Dame, oui. Mais c'est la démonstration que, vous savez, que quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays, vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, en un clic, j'allais dire, 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. Et j'aimerais connaître la position des salariés des groupes que dirigent ces PDG qui ont eu à qui on dit vous coûtez trop cher, il y a pas d'argent pour vous augmenter. Vous voyez, il faut aussi de la mesure.
Vous voulez dire qu'on est plus généreux avec les pierres de Notre-Dame qu'avec les salariés de chez Renault ou d'autres entreprises?
C'est évident. Vous regardez les augmentations de salaire, mais c'est plus sur l'idée et c'est une musique que le président de la République va sûrement continuer à développer. Il y a pas d'argent dans ce pays. Il faut faire des économies. S'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, mais il est la propriété de quelques-uns. Et donc, avec ce qui se passe autour de Notre-Dame, je pense qu'il faut aussi de la mesure, parce qu'il y a la misère sociale, ça continue.
Mais ça veut dire que
les drames sociaux, ça continue.
Mais ça veut dire, Philippe Martinez, est-ce que vous trouvez que c'est indécent de la part de ces milliardaires de faire des chèques comme ça de plusieurs centaines de millions d'euros?
Je dis juste que s'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale. C'est juste ça que je dis. Et donc, il y a besoin aussi de mesures pour régler l'urgence sociale.
Ces dons, Philippe Martinez, ils donnent droit à des déductions ou des réductions d'impôts. Alors le montant varie selon la situation. En gros, c'est entre 60% et 75% du montant du don qu'on va pouvoir retirer de ces impôts. Est-ce que ça vous semble être un dispositif fiscal normal ?
Qui est des déductions d'impôts pour des aides, enfin des œuvres humanitaires, pour les cotisations syndicales, etc.
C'est le cas, oui.
Je trouve ça tout à fait normal. Moi, je vous dis juste, et j'insiste là-dessus, que c'est la démonstration que certains dans ce pays sont très 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 riches et que la question du partage des richesses, elle est posée plus que jamais, plus que jamais.
Et quand vous entendez l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, auteur de la loi sur le mécénat en 2003, qui est par ailleurs aussi directeur général de la collection Pinault, demander, lui, que la reconstruction de Notre-Dame soit considérée comme trésor national, ce qui permettrait de pousser ces réductions d'impôts jusqu'à 90%, en l'occurrence, des dons. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous considérez
oui,
que c'est
enfin,
une...
Oui, parce que je pense qu'il y a, il y a des règles, elles sont bonnes, mais en même temps, ça doit poser aussi la question de l'argent public qui va à la culture. Or, vous savez que quand on est obligé de faire des lotos du patrimoine, hormis cette question exceptionnelle de l'incendie de Notre-Dame, qu'on est obligé de faire des lotos du patrimoine parce que l'argent public ne va pas à la culture, alors qu'il y aurait besoin de beaucoup d'argent, parce que vous savez que la culture, c'est important dans un pays.
Mais est-ce que l'État a encore les moyens de financer justement ce patrimoine, y compris...
Pour donner à Philippe Martinez...
On vient de parler de centaines de millions...
Le milliard donné par les Français, Philippe Martinez, c'est trois fois le budget annuel consacré par l'État. Le milliard que s'apprêtent à donner les Français, grande fortune ou petite fortune, c'est trois fois le budget annuel consacré à la restauration des monuments historiques, le budget de l'État.
Donc il y a besoin d'une autre politique publique en lien avec la culture et le patrimoine. Le patrimoine, c'est la culture de notre pays. Et donc, oui, effectivement, il y a besoin de mesures. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune... Par exemple, vous voyez qu'il y a des fortunés, par exemple. Or, je n'ai pas entendu le président de la République, peut-être qu'on l'entendra en fin de semaine ou la semaine prochaine, enfin, c'est pas encore dans l'air du temps, vous voyez. Donc, il y a ces questions de mesures dans les décisions qui sont prises, elle est posée encore plus aujourd'hui.
Précisément, on n'a pas entendu, effectivement, le président de la République qui a annulé son intervention lundi soir à cause de l'incendie de Notre-Dame, mais on sait, d'après toutes les informations qui sont sorties sur le contenu de cette intervention, qu'il s'apprêtait non pas à rétablir l'impôt sur la fortune, mais à envisager une évaluation de l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF, en 2020. Est-ce que c'est un premier pas pour vous, cette évaluation? Écoutez,
ils ont fait un grand débat, nous avons dit attention à l'arnaque. Mais alors, après les résultats, il y a eu des interrogations sur la véracité des restitutions. Ceci dit, qu'est-ce qui vient en premier, ou parmi les premières choses? La question de l'augmentation du pouvoir d'achat et la question de la justice fiscale. Les services publics, on peut en parler aussi. Les Français demandent le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas. On va trouver, on va faire une évaluation pour savoir si...
Non, c'est un premier pas, non, l'évaluation?
Mais quand on pose une question, on ne tourne pas autour du pot, si vous me permettez l'expression. On y répond à cette question. Et on ne dit pas, j'ai fait un grand débat pour prendre en compte ce que vous dites, parce que là, ce n'est pas le cas. Il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Et vous l'avez noté, des fortunes existent en France, mais y compris d'entreprises qui ne sont pas françaises, mais qui ne payent pas d'impôts, par exemple... sur notre territoire.
Et on va revenir dans les minutes qui viennent sur les annonces qu'aurait dû faire Emmanuel Macron lundi soir à la télévision, puisqu'elles ont donc fuité dans la quasi-totalité des médias. Philippe Martinez, vous restez avec nous, 9h-20, David Doba pour le résumé de l'actualité.
Les dons affluent de toutes parts, d'Apple à la Banque Centrale Européenne, en passant par les grandes fortunes de France, sans oublier bien évidemment les milliers d'anonymes, tous mobilisés. Déjà 880 millions d'euros récoltés pour la reconstruction de Notre-Dame. Reconstruction qui devrait être faite dans les 5 ans à venir. C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron. Le racisme dans les stades, principal sujet de discussion ce matin entre la ministre des Sports et Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Foot. Rencontre qui fait suite aux cris de singe qui ont émané la prestation de Prince Guano vendredi. C'était à l'occasion du match Dijon-Amiens. Un bombardement à Tripoli a fait 2 morts et 8 blessés hier soir. Déclaration des représentants des services de sécurité. L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar a lancé il y a maintenant 2 semaines une offensive en direction de la capitale. Et puis la 3e sera peut-être la bonne. Après 2 tentatives ratées, le PSG va donc tenter de décrocher le titre de champion de France ce soir. Il se déplace à Nantes, c'est à 19h dans le cadre d'un match en retard de la 28e journée de Ligue 1 des Parisiens qui vont devoir composer avec de nombreuses absences. C'est le cas de Marquinhos, de Neymar, de Cavani, de Verratti, de Thiago Silva, de Meunier et probablement de Di Maria. Mbappé pourrait également manquer à l'appel.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est toujours avec nous. Emmanuel Macron devrait donc réindexer les petites pensions de retraite, celles qui sont inférieures à 2000 euros sur l'inflation, à partir du 1er janvier prochain. Sur ce point, vous avez gagné.
Qu'est-ce qui justifie que des retraités soient augmentés et d'autres moins? on crée encore des inégalités. Enfin, je veux dire, on vient de parler de gens qui sont capables, en une seconde, de débloquer 200 millions, et on va considérer que parce qu'on gagne 2001 euros, on est favorisé. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Il faut que les règles s'appliquent pour tout le monde. Il faut indexer les retraites sur les augmentations moyennes de salaire, premièrement. Pas sur le coût de la vie, sur les augmentations moyennes de salaire. Et pour tous les retraités. Pour tous les retraités. Est-ce que, je vous le répète, est-ce qu'à 2001 euros, on est favorisé, riche?
Pour vous, il n'y a pas de plafond à mettre.
C'est une question d'égalité de traitement. D'égalité de traitement. On essaye encore, mais c'est ce que fait M. Macron depuis qu'il est là, d'opposer ceux qui ont un petit peu avec ceux qui n'ont rien du tout. Attaquons-nous à ceux qui ont beaucoup.
Mais demander davantage d'efforts à ceux qui gagnent plus que ceux qui touchent moins, est-ce que ça contribue pas à conforter la justice fiscale, la justice sociale?
Et pourquoi on remet pas l'impôt sur la fortune?
Là, on était sur les retraités.
Non, mais d'accord. Non, mais il faut.
On peut gagner plus de 2000 euros sans forcément.
On n'est pas fortuné. On n'est pas fortuné. On n'est pas fortuné quand on
gagne plus. Il y a un plafond. Non, à vos yeux, il n'y a pas de plafond.
Ce sont des travailleurs et des travailleuses qui ont cotisé toute leur vie, toute leur vie. Certains 40 ans, 42 ans déjà. Et on va leur dire, vous êtes riche, et donc, vous n'êtes pas traité comme les autres. Il faut que la barre des questions d'égalité et d'inégalité, elles soient placées au bon endroit.
Donc les cadres supérieurs, les professions libérales, qui peuvent toucher parfois des pensions extrêmement élevées, en tout cas les cadres supérieurs très élevés, il n'y a pas de plafond.
Il y a d'autres mesures à avoir sur les déplafonnements des cotisations sociales, par exemple, qui ne touche pas les très très hauts cadres. Par exemple, il y a augmenter les tranches d'impôts, rajouter des tranches d'impôts vers le haut, pas vers le bas. Voilà des mesures.
C'est-à-dire, vous souhaiteriez par exemple que la tranche la plus élevée de l'impôt sur le revenu grimpe à combien, à quel taux?
Il faut que ça atteigne les 45 à 50%. On a fait 19 propositions. Vous voyez, nous on a fait le grand débat, mais où il n'y avait aucune question tabou. Et on a relevé 19 propositions qu'on va d'ailleurs discuter avec des associations, d'autres syndicats, parce qu'on n'a pas la prétention de tout connaître. Mais on veut discuter de choses qui intéressent ceux qui, depuis des années, se mobilisent avec le point d'orgue que nous avons avec ceux qui sont habillés en jaune. Mais il y en a bien d'autres qui manifestent. Et donc, on veut discuter de choses concrètes qui intéressent ceux qui souffrent. Voilà. Donc, il faut... il faut rajouter des tranches d'impôts à la hauteur de ce que je vous ai dit.
Parallèlement à ces annonces d'Emmanuel Macron, on sait qu'une négociation est en cours depuis des mois sur la réforme des retraites en France. Est-ce que vous faites encore, vous, Philippe Martinez, confiance à Jean-Paul Delevoye, l'homme qui a été chargé de négocier avec les syndicats après les différents couacs qu'on a pu connaître ces derniers mois?
Premièrement, ce sont des concertations, il n'y a pas de négociation. Et la deuxième chose, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que on commence à être un peu irrité. Parce que Monsieur Delevoye, qui est donc représentant du gouvernement, nous dit on ne touchera pas à l'âge légal de la retraite. La CGT propose d'ailleurs de le ramener à 60 ans et pour les travaux pénibles à 55 ou 50 ans. C'est dans nos 19 propositions. Et puis des ministres, comme ça... au hasard d'une interview, disent il faut travailler plus longtemps, etc. Qui croire? Et est-ce que le dialogue social, comme ils aiment dire, il est crédible? Il est fiable? Donc, si ça continue, on n'est pas les seuls à le dire, on va quitter la table. Parce que on peut pas avoir nous dire blanc le matin et le soir dans les interviews, trois ministres qui disent noir. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous êtes en train de vous faire avoir sur cette réforme?
Non, on a été discutés parce qu'on a des propositions, et je vous en ai cité quelques-unes, pour améliorer le système de retraite dans ce pays. Donc on va porter nos propositions. Mais si on a l'impression qu'on se moque de nous pour être poli, on ne sera pas responsable de cette cacophonie et de l'échec de discussion.
Donc pour dissiper cette impression, Philippe Martinez, qu'est-ce que vous réclamez? Une expression du Premier ministre ou du Président qui écarte clairement tout report de l'âge légal de la retraite?
Nous réclamons, une expression forte qui dit, mais pas seulement l'âge légal, c'est avoir les moyens de partir à l'âge légal. Parce que là aussi, il y a des ambiguïtés. On peut maintenir à 62 ans aujourd'hui, mais faire en sorte que le niveau des pensions soit si faible et c'est déjà le cas aujourd'hui, pour un certain nombre de travailleurs et de travailleuses, qu'on soit obligé de continuer à travailler. Parce que vous savez très bien que l'âge moyen de départ, c'est bien au-delà de 62 ans aujourd'hui, pour avoir à peu près de quoi vivre.
Dans les annonces qu'Emmanuel Macron aurait dû faire donc lundi soir à la télévision, pas mal de médias sont très bien informés. Sur ce point, il y a également l'annonce de la pérennisation de la prime Macron, la prime qui a été accordée à 2,5 millions de salariés en fin d'année dernière, qui serait donc à nouveau défiscalisée chaque année jusqu'à la fin du quinquennat.
Dont pratiquement aucun n'a touché 1 000 euros, vous le savez.
J'ai pas dit le chiffre, 1 000 euros.
Ouais. En moyenne, c'est 500 euros, c'est autour de 500 euros en moyenne.
L'annonce fracassante, c'était prime de...
Attendez, jusqu'à 1 000 euros défiscalisés.
Tout le monde a retenu, vous l'avez relayé, c'est normal, tout le monde a retenu 1 000 euros. Donc, on est d'accord, la moyenne, c'est 500 euros. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça pose la question de notre protection sociale. On parle de la retraite, de la santé.
Parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale sur ces primes. Oui.
Quand il n'y a pas de cotisation, ce n'est pas d'argent pour la santé, pour la retraite. Or, selon les fuites, il annonce pas de fermeture d'hôpitaux. Mais comment on finance? Comment on finance les hôpitaux? Le personnel, vous avez vu que les urgences sont plutôt en colère, en grève, la psychiatrie. Comment on finance?
Alors, il donne la réponse, Emmanuel Macron, dans cette allocution qui n'a pas eu lieu. On va supprimer des niches fiscales. D'abord, sur ce point, est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, oui.
Lesquelles?
Il y a des niches fiscales qui s'apparentent plus à... pudiquement de l'optimisation fiscale, de la fraude, quoi.
Lesquels?
Je suis pas un spécialiste de la fraude fiscale, désolé.
Les dispositifs liés, par exemple, à l'investissement immobilier ou dans les dom-toms.
Mais il y a besoin, par exemple, mais il y a besoin d'avoir une fiscalité plus juste. On en a parlé tout à l'heure. Ça, il n'en parle pas. Ceci dit, notre système de protection sociale, il est basé sur la cotisation, pas sur l'impôt.
Donc la pérennisation, l'annualisation de cette prime, en l'occurrence, c'est une mauvaise idée. Vous y êtes hostile, l'annualisation de cette prime, défiscalisée.
Quand on peut mettre du beurre dans les épinards, c'est jamais un problème pour nous. Mais il faut que...
Ah, vous y êtes favorable.
Il faut que notre système, il soit basé sur le salaire. Et dans le salaire, il y a ce qu'on touche à la fin du mois et ce qu'on met de côté, entre guillemets, qui s'appelle des cotisations
sociales.
Donc
j'essaie de résumer votre pensée, Philippe Martinez. Vous y êtes favorable ou pas à cette prime?
Mais je vous répète, nous, la structure.
Oui. J'ai compris le message sur les cotisations sociales.
Si
il y a de l'argent en plus pour 2,5 millions de Français.
S'il y a de l'argent en plus, évidemment qu'il faut le prendre. Évidemment. Mais on ne peut pas construire son avenir sur des primes exceptionnelles. Vous allez essayer de louer un appartement en disant à votre bailleur, je vais avoir une prime exceptionnelle. Il va vous rire au nez, vous le savez très bien. Par contre, si vous montrez votre fiche de paye, là, ça peut s'arranger à condition qu'elle soit au niveau raisonnable pour pouvoir louer votre appartement.
On se retrouve dans un instant.
Très concret.
On se retrouve, dans un instant. Philippe Martinez, 9h-10. David Doba pour le tour de l'actualité.
Tout s'est joué autour d'une action collective. Déclaration ce matin sur France Info de Gabriel Plus, c'est le porte-parole des pompiers de Paris. Selon lui, si les cloches de Notre-Dame s'étaient effondrées alors que les flammes commençaient à toucher le beffroi nord, elles auraient déstabilisé l'ensemble de la structure. C'est pour cette raison et en dépit des risques donc que des pompiers se sont engagés à l'intérieur de la structure. France Info a pu prendre connaissance du contenu de l'allocution que devait prononcer Emmanuel Macron lundi soir. Le chef de l'État devait donc annoncé notamment une baisse de l'impôt sur le revenu, l'organisation sous condition de référendum d'initiative citoyenne, autre proposition, un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux. 270 cocktails Molotov, des boules de pétanque remplies d'explosifs et plusieurs projectiles découverts dans la nuit de vendredi à samedi à Bastia. Découverte effectuée dans le hall d'un immeuble situé près du Vieux-Port, quelques heures seulement avant la manifestation organisée contre la répression touchant les anciens prisonniers nationalistes. Et puis on connaît déjà les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. L'Ajax Amsterdam et Barcelone ont obtenu leur billet en battant respectivement hier soir la Juventus Turin et Manchester.
France Info. Toujours avec le leader de la CGT, Philippe Martinez, dans cette allocution, Emmanuel Macron devait aussi demander aux Français de travailler davantage. Est-ce que c'est le retour du travailler plus de Nicolas Sarkozy?
Ça y ressemble en tout cas. Et donc pour un président qui voulait faire du neuf... Il s'inspire mais de Nicolas Sarkozy, mais il paraît que c'est lui qui le conseille, d'après ce que j'ai compris. C'est absurde. L'avenir, c'est de travailler moins. Si on veut que tout le monde puisse travailler, Il faut que les gens travaillent moins. Et vous savez que la CGT, avec... ça fait partie de nos propositions, propose de travailler 32 heures. Évidemment, en fonction des professions, c'est une durée moyenne hebdomadaire, parce qu'il y a des professions, je pense à des ingénieurs, à des cadres, j'en connais dans mon entreprise, qui sont sur des projets, et on peut pas leur dire à la fin de la semaine, quand ils sont à l'autre bout du monde, de revenir chez eux.
Est-ce qu'à votre connaissance, Philippe Martinez, il y a d'autres pays près de nous qui envisagent de travailler 32 heures?
Mais en tout cas,
est-ce qu'on peut être les seuls à le faire?
En tout cas, je connais d'autres syndicats. En
ça, oui. Oui, oui.
Non,
oui.
Mais est-ce que le monde va bien, monsieur? Est-ce que le monde va bien? Est-ce que le monde tourneront? Moi, je ne crois pas. Quand on voit des enfants qui continuent à travailler, quand il n'y a jamais eu autant de travail informel. Alors, est-ce que notre modèle social, c'est moins de social, justement? Ou c'est, alors que des richesses, on en a parlé, sont créées, il y a des gens qui possèdent des fortunes? Est-ce que les inégalités vont continuer à se creuser? Alors moi, nous à la CGT, France, notre modèle, c'est pas que les enfants travaillent, c'est pas le travail informel, c'est pas des gens qui...
C'est une
qui
autre question, le travail
en
des
France,
enfants.
Non,
tout le monde est contre le travail
si
des enfants.
Si on reste en France,
Philippe Martinez...
Si on reste en France, Philippe Martinez, est-ce qu'au regard de l'évolution démographique du pays, de l'espérance de vie, du fait que le nombre d'actifs diminue au regard du nombre, en proportion au nombre de retraités qui s'accroît, et ça va être le cas encore dans les décennies à venir, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'effectivement, il faudra travailler de moins en moins demain pour les actifs?
Oui, parce que il y a de l'argent dans ce pays. Il y a de l'argent dans ce pays.
C'est le travail qui produit de l'argent, qui produit la richesse. Et vous dites en même temps, il faut travailler de moins en moins.
Donc, il faut mettre plus de monde au boulot. Il y a 10% de chômeurs. Vous vous rendez compte? Si, par exemple, on réduisait de moitié le chômage, le nombre de cotisations sociales que ça ferait et le nombre de recettes que ça ferait pour la santé, pour la retraite, pour la protection sociale, les impôts, si on est bien, parce que il faut rendre ces lettres de noblesse. C'est bien de payer des impôts. C'est bien de payer des impôts. Parce que les impôts, ça sert à financer des écoles, à entretenir les routes, les monuments historiques. Vous voyez, c'est bien de payer des impôts. Mais pour payer des impôts, il faut gagner suffisamment. Et il faut pas être au chômage, parce que quand on est au chômage, on ne touche rien pour un chômeur sur deux. Il faut remettre les choses à l'endroit. Parce que là, ce qu'on nous demande, c'est de gérer la misère. C'est de gérer la misère.
Sur le temps de travail, concrètement, dans le projet de loi porté par le gouvernement sur la fonction publique, il y a la volonté du gouvernement de pousser certaines collectivités locales dans lesquelles les agents des collectivités locales ne travailleraient que 32 ou 33 heures par semaine à effectuer effectivement 35 heures hebdomadaires.
On est encore sur de la chasse aux fonctionnaires. Alors, c'est bien, on salue les fonctionnaires, ça a été fait hier soir d'ailleurs, quand il y a des événements comme ce qui s'est passé à Notre-Dame, pour leur disponibilité, pour leur engagement. Mais dès le lendemain, on revient. Les fonctionnaires, par exemple, il faut le dire, travaillent plus la nuit que dans le privé, parce qu'ils sont au service de la population.
Mais la durée légale, c'est 35 heures hebdomadaires, Philippe Martinez.
Attendez, mais si vous ne prenez pas en compte toute la diversité de ce que font les fonctionnaires, je vous dis, le travail de nuit est plus important dans la fonction publique que dans le privé, parce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Les astreintes, vous savez, les astreintes où vous êtes le week-end chez vous et on vous téléphone parce qu'il s'est passé un problème dans la localité, eh bien, il est plus important chez les fonctionnaires que dans le privé. Eh ben, il faut prendre donc la globalité. Et il faut arrêter cette légende qui consiste à dire que les fonctionnaires travaillent moins que les autres. C'est faux. Les fonctionnaires, et c'est leur statut, et c'est pour ça qu'il faut défendre la fonction publique et le statut des fonctionnaires, parce que leur statut, c'est la définition de leur mission, c'est priorité aux citoyens, pas aux actionnaires.
Ce gouvernement n'aime pas les fonctionnaires, à vos yeux?
Il n'y a pas que celui-là. Parce que ça fait quand même quelques années, voire quelques décennies, qu'on montre du doigt les fonctionnaires, les feignants, ils travaillent jamais, etc. C'est scandaleux. Allez dans un hôpital, et vous verrez si les fonctionnaires sont des feignants et ils ne travaillent pas.
Philippe Martinez, il nous reste peu de temps. La suppression de l'ENA, en revanche, est-ce qu'elle a votre faveur?
Je pense qu'il faut.
Bon, j'aurais tout tenté hein, ce matin, mais.
Oui, non, mais je pense qu'il faut. Je connais des ministres qui n'ont jamais fait l'ENA. Et qui vivent dans un autre monde que moi. Donc,
le fait que ce soit un président qui a fait l'ENA, qui aujourd'hui s'apprête à annoncer sa suppression,
ça c'est très.
Vous y voyez quoi?
C'est un coup de com. Moi,
est-ce que c'est pas une forme de chasse aux hauts fonctionnaires?
Ou à quelques ministres? Je vous dis que je connais des ministres qui n'ont pas fait l'ENA et qui sont en dehors des réalités et il y en a dans ce gouvernement, de la majorité des citoyens. Ce qu'il faut, c'est aller discuter avec les gens, aller sur les lieux de travail pour savoir comment ça se passe. Et
donc,
vous
quelle
verrez...
sera la position de la CGT si l'ENA ferme? Alors, vous allez défendre les étudiants de l'ENA?
Je poserai la question à la section syndicale de l'ENA, mais je suis pas sûr qu'on en ait une. Je sais qu'on en a à HEC, mais on en a...
Il n'y a pas de section de la CGT à l'ENA.
Mais à HEC, vous voyez.
Bon, à HEC. Bon. Merci beaucoup, Philippe Martinez.
Merci à vous.
Bienvenue ce matin sur France Info. Dans 2 minutes, il sera 9h.